Non. Oui. Ah, ça y est. J'espère que vous allez bien. Bonjour à tous. Bonne année à ceux à qui j'ai pas eu l'occasion de le dire. Bon, c'est un petit peu triste ce matin. On arrive à la fin du livre de Josué. Et tout le monde fait « Oh !» Ou alors il y en a qui font « Ouais, il y en avait marre !» Non, c'est toujours bien de parcourir un livre en entier de la Bible. Donc ça fait maintenant quelques mois, ça fait quelques dimanches que nous sommes sur le livre de Josué et nous arrivons donc à la fin, Josué chapitre 23 et 24. Alors, on ne va pas prendre le temps ce matin de lire l'ensemble des deux chapitres, parce que ça prendrait pas mal de temps. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le faire, ben, quand vous rentrez chez vous, faites-le. C'est important de s'imprégner du texte biblique avant tout. Et ce matin, on va parler de points spécifiques. On va commencer par prier, si vous voulez bien. Père, merci pour... ta parole. Merci pour le trésor qu'elle est pour nos vies. Et Seigneur, alors qu'on arrive à la fin de ce livre, je prie que le Saint-Esprit continue de nous parler, continue de nous transformer, Seigneur. Continue de nous encourager et de nous solidifier dans la vérité de l'Évangile. Seigneur, on veut te demander que ta grâce vienne faire son œuvre dans nos cœurs, Seigneur, et qu'elle vienne encore transformer nos vies ce matin. Béni sois-tu et béni soit cette parole que tu nous as laissée, Seigneur. Amen. Donc on arrive au dernier jour de la vie de Josué. Il a... ça va ? J'ai l'impression qu'il y a de l'écho. Il a rempli son ministère de faire rentrer le peuple dans le pays promis. Si vous vous souvenez, avant de rentrer dans ce livre, on avait parlé un petit peu du rôle de Moïse, qui lui avait eu le rôle de faire sortir le peuple de l'esclavage, d'apporter la présence de Dieu au milieu du peuple et d'accueillir la parole de Dieu, notamment avec l'épisode où il reçoit les tables de la loi. Mais il ne lui fut pas attribué celui de faire entrer le peuple dans la promesse. Et c'était au tour de Josué d'endosser ce rôle de dirigeant du peuple et de témoigner du Messie en faisant entrer le peuple dans le pays promis. Et en fait, quand vous allez continuer de lire votre Bible, eh bien vous allez voir que Josué, eh bien il laisse place aussi, d'accord ? Il n'endosse pas tous les rôles, et lui aussi va laisser la place. Et à la suite de Josué, eh bien on a une succession de 12 juges en Israël qui eux-mêmes vont introduire la période que l'on appelle des rois, avec le premier roi Saül et puis ce grand roi dont on entend souvent parler dans la parole de Dieu, qui est David. Et comme Moïse a porté une transition importante de l'esclavage vers le désert, eh bien Josué a porté aussi une autre étape importante en passant du désert et en rentrant dans le pays de la promesse. Alors, à nouveau, ces deux chapitres sont bien sûr assez riches en termes de contenu et je pense que je vous aurais tous endormi si nous avions déroulé tous les versets qu'il y a là-dedans. Mais je vous encourage encore une fois à les lire. Et ce qu'on va faire ce matin, c'est qu'on va retirer deux conseils principaux que Josué nous laisse dans ces deux derniers chapitres. Le premier conseil, Il est simple, mais il est bon de se le rappeler en ce début d'année. Observe et mets en pratique la parole de Dieu. Et le deuxième conseil que Josué va nous laisser, c'est « Sois fidèle ». Voilà le programme de ce matin. Vous pouvez rentrer chez vous pour ceux qui... Ou alors, on va creuser ces deux thèmes. Observe et mets en pratique la parole de Dieu. On va lire le verset 6 dans Josué 23, où il est dit « Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. » Les deux derniers textes, là, chapitres 23 et 24 de Josué, nous parlent de l'héritage que Dieu laisse. Au verset 4, on a « Voyez, je vous ai donné en héritage. » Et c'est dans ce contexte que Josué prononce ses dernières paroles. Nous pouvons donc considérer que ces deux derniers chapitres sont comme le testament de Josué. Ce ne sont pas des paroles légères que Josué prononce ici. Ces paroles sont les dernières paroles qu'il va laisser à la génération après lui. Tu peux mettre la diapo suivante. Vous, qu'auriez-vous écrit ? Imaginez, mettez-vous à la place de Josué. Vous avez 110 ans. Ouais, merci Seigneur. Vous savez que vous êtes à l'aube de votre départ définitif de cette terre. Que dites-vous à la génération qui est après vous, qui va prendre le relais ? Eh bien, Josué, il nous dit, et on revient au verset, « Appliquez-vous avec force !» Il est fort ce verset. « Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à gauche ni à droite. » C'est plutôt ni à droite, ni à gauche. Josué place la parole de Dieu au cœur de tout. Et dans son testament, il ne va faire que répéter ce que Dieu lui a dit. Et on revient donc, on fait comme dans les films, vous savez, on revient en arrière et on revient au chapitre 1. Verset 8. Dieu dit à Josué, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Josué a bien vécu. Il a eu une vie riche en événements et en expériences de toutes sortes. Waouh ! C'est impressionnant quand on déroule le livre de voir tout ce que Josué a pu vivre. Il a vécu la période, tu peux mettre la slide d'après, de l'esclavage. Il a vécu la libération miraculeuse d'Égypte avec les plaies, avec la mer Rouge qui s'ouvre. Il a vu les tables de la loi qui ont été brisées une première fois et redonnées encore. Il a vécu l'expérience tragique du veau d'or. Il a vécu l'errance dans le désert et la manne que Dieu a pourvue. Il a vécu la présence de Dieu dans la tente avec Moïse. Il a vécu la mort de Dieu. de toute une génération qui était la sienne. Et ce, plus vieux. Et aussi la renaissance d'une autre génération. Il a vécu la transition de leadership de Moïse envers lui. Et il est rentré dans la promesse de Dieu, dans la terre promise. Et il a vu la parole de Dieu s'accomplir tant de fois. Et c'est fort de cette expérience de vie extraordinaire et inspirée par l'Esprit qu'il nous laisse ses paroles. Et on remet encore une fois Josué 23, verset 6. Je martèle ce matin. Mais c'est pour nous faire saisir la profondeur de ce que Josué est en train de nous dire là. Il n'est pas en train de nous dire quelque chose de basique ou quelque chose que je peux mettre de côté dans ma foi. Appliquez-vous, ça je le dis souvent dans mon travail, avec force à observer et à mettre en pratique tout, j'aurais dû prendre une Bible papier, tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. La parole de Dieu est représentée dans ce verset de Josué par l'expression « le livre de la loi ». Et elle est centrale. Elle trace un chemin sur lequel Dieu m'appelle à marcher. Et Jésus nous dit que ce chemin, il est resserré, il est étroit. Je crois que Josué nous réinterroge ce matin. Quelle place a la parole de Dieu dans ma vie? Quelle place est-ce que je lui donne? Est-ce que je la considère comme un livre qui donne de bons conseils et que je suis de loin et que j'écoute comme ça, de temps à autre? Est-ce que c'est juste un phare qui me donne une direction? Vous savez, quand on est sur un bateau, on a le phare au loin quand on arrive proche de la côte qui me dit vers où il faut aller. Et puis, alors que je vois ce phare, eh bien je m'autorise à naviguer comme j'ai envie. Un coup à droite, un coup à gauche. Est-ce seulement un livre que j'utilise quand je ne vais pas bien? Parce que là, j'ai besoin d'être réconforté. Alors, j'utilise ce livre pour me soigner, pour me faire du bien, pour apaiser mes angoisses de la vie. Et je crois que Josué nous dit non ce matin. Alors oui, ça sert à tout ça, mais non, la parole de Dieu est bien plus que cela. En plus de donner la direction principale pour nos vies, nous avons à l'observer et à la mettre en pratique. Et il dit tout dans son entièreté, dans son intégralité, tout ce qui est écrit, sans s'écarter ni à droite ni à gauche. J'aurais dû le faire à l'envers. Et Josué nous dit, appliquez-vous avec force. Est-ce que vous ressentez son cœur? C'est ce qu'il laisse à la génération d'après. Donc il y va avec des mots forts. Appliquez-vous avec force. Toutes les générations sont concernées. Connaître et mettre en pratique la parole de Dieu, ce n'est pas quand tu as le temps ou seulement quand les circonstances sont favorables. C'est pas quand tu as le temps. Ou c'est pas quand tu es de bonne humeur seulement. C'est tout le temps. Josué nous encourage à prendre au sérieux la parole de Dieu et à y consacrer beaucoup d'énergie et de temps. Beaucoup d'énergie et de temps. Je ne suis pas en train de vous dire que ça va être un parcours de santé. Je ne suis pas en train de vous inviter à aller vous allonger sur la plage et à prendre un bon petit bouquin. Josué, il est en train de nous dire « Appliquez-vous avec force !» Il faut que ça devienne important dans ta vie. Alors, ne levez pas la main, bien sûr. Mais est-ce qu'il y a des personnes parmi nous qui n'aiment pas trop lire ? Moi, j'étais comme ça. Et qui ne prennent pas beaucoup de temps pour étudier la Bible. Et Josué te dit ce matin, change. C'est 2024, c'est les bonnes résolutions. Change ! Change ! Maintenant, change tes habitudes et applique-toi avec force à la lecture de la Bible. Alors pourquoi Josué insiste tellement et place ça au cœur de tout ? Eh bien, si on se rappelle Josué 1:8 qu'on a lu, la conclusion c'est « C'est alors que tu réussiras ». La conclusion, c'est alors que tu réussiras. C'est la clé de la réussite. Réussir sa vie ne passe ni par la richesse, ni par le pouvoir, ni par la notoriété ou le nombre des conquêtes que je peux faire. Réussir sa vie passe par la connaissance et, en même temps, la mise en pratique de la parole de Dieu dans ma vie. C'est exactement comme ça que le grand roi David ouvre son merveilleux livre des psaumes. Psaume 1. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Prenons ce conseil pour nous, à la fois personnellement et à la fois en tant que communauté pour cette nouvelle année. Vous êtes d'accord ? Ouais, il y en a une qui est d'accord. Faisons tout ce que nous pouvons. C'est ça que Josué est en train de nous dire. Avec force pour grandir dans la connaissance de la parole de Dieu, recherchons sa volonté afin de lui obéir et de mettre en pratique ce que nous connaissons de lui. Un monsieur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Spurgeon, si vous n'avez jamais lu de lui, je vous invite à aller lire des citations, des choses qu'il a écrites. Il dit... Le temps est court, l'éternité est longue. Il est donc raisonnable, d'accord ? Il fait appel à notre ciboulot. Il est donc raisonnable que cette vie courte soit vécue à la lumière de l'éternité. La vie est courte, les amis. Elle est courte. On arrive vite à 110 ans. C'est bien parce que je sais qu'il n'y a personne dans l'Assemblée qui a 110 ans. Mais on y arrive vite. Et la parole de Dieu est ce qui fera réussir ma vie. Je rappelle le temps de jeûne et prière que l'on a prévu, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. J'espère que nous y viendrons avec joie, avec entrain, pour rechercher la volonté de Dieu. Amen. À la fois individuellement et à la fois pour notre communauté. pour notre communauté. Josué nous rappelle ce matin, tu peux mettre la slide d'après, ce que Dieu veut pour ta vie est plus important que ce que tu veux, que ce que toi tu veux. Tourne-toi vers celui qui est à côté de toi et dis-lui ça. Ce que Dieu veut pour ta vie est plus important que ce que toi tu veux. Faisons-le. Peut-être qu'on ne se le dit pas assez. Ce que Dieu veut pour ta vie est plus important que ce que toi tu veux. Alors, lis ta Bible et mets-la en pratique. Lis ta Bible et mets-la en pratique. J'en profite pour vous dire que nous sommes en train de réfléchir et nous allons mettre en place des parcours, on va appeler ça, je ne sais pas si ce sera le nom, mais en tout cas ce sera ça, des parcours qui vont permettre à chacun de grandir dans sa foi, de grandir dans sa connaissance de la parole de Dieu et aussi de grandir dans la mise en pratique de ce que la Bible enseigne. Et donc nous vous encouragerons au fur et à mesure de l'année de manière spécifique et en même temps de manière communautaire, à participer à ces parcours que vous allez voir émerger les uns derrière les autres. Très bien. Ce que Dieu veut pour ta vie est plus important que ce que toi tu veux. Deuxième point. Josué nous encourage en disant « Reste fidèle ». Josué 24, on passe au chapitre 24, verset 14. « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. » C'est quoi la fidélité ? Une petite définition. C'est la qualité de quelqu'un qui est dévoué, attaché à quelque chose, à quelqu'un. En nous disant « Sois fidèle », Josué nous dit « Reste attaché à Dieu ». C'est aussi la qualité de quelqu'un qui est constant dans ses sentiments. D'accord ? Constant dans ses sentiments. Parfois, dans le couple, la constance, on se demande où elle est. Et pourtant, Dieu nous appelle à être fidèles, constants dans nos sentiments envers lui, dans notre affection et dans nos habitudes. C'est ça, être fidèle. Être fidèle, c'est aimer Dieu chaque matin et chaque soir. C'est aimer Dieu, c'est se rassembler autant que je le peux, parce que je suis constant, à la fois dans mon affection, dans mon amour, et à la fois dans mes habitudes. Rappelons-nous, nous sommes toujours dans le contexte du testament de Josué, les paroles, les dernières paroles qu'il laisse. Et Josué nous dit donc, servez Dieu avec intégrité et fidélité. Nous sommes encouragés ce matin à ne pas nous laisser diriger par les mauvaises émotions qui peuvent survenir dans notre vie de tous les jours. Nous sommes appelés à être constants dans nos sentiments, dans notre amour pour Dieu et dans les habitudes que l'on va développer envers lui. Alors pourquoi la fidélité, elle est importante ? Et je vais dire deux choses par rapport à ça. La première chose, la fidélité est importante car... Dieu est fidèle. Pourquoi c'est important que l'on soit fidèle, vous et moi ? Parce que Dieu est fidèle. C'est bon de se le rappeler. Deutéronome 32, c'est un Dieu fidèle. Je ne vais pas tout lire. Hein. Je lis ce qui est en rouge. Lamentation 3, 23. Oh, que la fidélité de Dieu est grande. 1 Corinthiens 9, car Dieu est fidèle. Thessaloniciens 3, le Seigneur, lui, est fidèle. 2 Timothée 2, 13, celui-là, on peut l'apprendre par cœur, je vais le lire en entier. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Amen. Dieu est fidèle. Josué, en prenant l'exemple de la fidélité de Dieu, s'est attaché à Dieu de toutes ses forces, avec fidélité et intégrité. Et quand on arrive à la fin de son livre, eh bien on se rend compte de cela. Il s'est attaché à Dieu de toutes ses forces, malgré tout ce qu'il a vécu, malgré qu'il soit dans une génération qui, en masse, s'est détournée de la parole de Dieu, lui est resté attaché à Dieu et à ses promesses, avec une intégrité sans faille et une fidélité sans faille. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait d'erreur. D'accord ? Mais il est resté intègre et fidèle. La deuxième raison pourquoi la fidélité est importante, eh bien, c'est parce que fidélité et foi sont vraiment très très proches. C'est deux amis inséparables, fidélité et foi. On le retrouve dans l'hébreu. La racine du mot fidélité vient du mot aman, que l'on retrouve dans Nombre 12, 7, qui signifie soutenir, rendre ferme, être établi de façon permanente, faire confiance, être certain de quelque chose. On se souvient de la définition de la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. On est certain de quelque chose. Le mot aman a donné un autre mot qui est emoun. C'est difficile à prononcer, vous irez voir Joël pour la prononciation. Et ça signifie fidélité, mais aussi foi. Et en fait, c'est un mot qui est interchangeable. Tantôt les traducteurs vont choisir le mot fidélité, tantôt ils vont choisir le mot foi. Comme dans Habacuc 2.4 où il est dit « Mais le juste vivra par sa emoun » et c'est fidélité. Il a donné aussi le mot émet, qui signifie vérité et confiance. Fidélité est synonyme de confiance et des choses qui sont vraies. On retrouve ça dans Exode 18, quand Moïse choisit des hommes pour diriger avec lui, et il va choisir des hommes émettent, dignes de confiance, autrement dit, qui sont fidèles. Et fidèles à quoi ? À la foi de Dieu. Et du coup, Aman, Emoun et Emet sont tantôt traduits par fidélité, tantôt par foi. La foi et la fidélité, c'est un peu comme les deux faces d'une même pièce, d'accord ? On ne peut pas les séparer. Quelqu'un qui vit dans la foi est forcément fidèle. Quelqu'un qui est fidèle à Dieu vit forcément dans la foi. D'accord ? Ne faisons pas de schisme dans nos têtes en disant « Si, moi j'ai la foi, mais la fidélité, ce sera pour demain. » Mais non. D'accord ? Ça va ensemble. Si je vis et je marche dans la foi, eh bien, de fait, je suis fidèle à mon Dieu. Il y a une autre signification, enfin, il a donné un autre mot, le mot Aman, c'est le mot Amen, forcément. Et ça signifie quoi ? En vérité. C'est intéressant, hein ? Le mot foi, fidélité, est aussi un synonyme du mot vérité. On retrouve en nombre 5, 22. Et c'est intéressant de relever que celui qui a utilisé abondamment ce mot-là, Amen, Amen, eh bien c'est Jésus. Seulement dans l'évangile de Jean, on a 25 fois répété ce mot Amen. Pourquoi ? Eh bien parce que ça nous rappelle qu'il est l'Amen. Il est le témoin fidèle et véritable. Et que nous pouvons avoir confiance en sa fidélité et que nous sommes appelés à vivre dans la fidélité à la foi en notre Seigneur. Et en grec, en bas là, la fidélité et la foi sont aussi très proches. Je vous ai fait un petit temps de culture, hein, mais ça fait du bien. C'est le mot... Ah, je suis perdu dans mes notes, voilà. Pistis. Qui tantôt va être traduit par le mot fidélité, dans Romains 3.3, par exemple, ou tantôt par foi, dans Romains 1.5. Fidélité et foi sont des amis parfois interchangeables, mais toujours inséparables. Ça va, ça, pour le retenir ? Fidélité et foi sont des amis parfois interchangeables, mais toujours inséparables. Et voici ce que nous déclare l'auteur de l'Épître aux Hébreux sur la foi, la fidélité. Il va nous dire « Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, de lui plaire, de lui être agréable. » Voilà pourquoi Josué le met au centre. D'accord ? La parole de Dieu, dans son entièreté, dans la connaissance et dans sa mise à pratique, et la foi, la fidélité au centre. Pourquoi ? Parce que sans ça, il est impossible de plaire à Dieu. Pour être agréable à Dieu, nous avons à vivre par la foi et dans la foi en Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit. Et alors que Josué parle de fidélité, en même temps, il entr'ouvre le domaine de la foi qui mène à la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi, vers la fin du chapitre 24, il va dire au peuple, une fois qu'il leur aura demandé d'être fidèles, c'est bizarre, mais on va comprendre pourquoi, il va leur dire... Mais au fait, vous n'aurez pas la force. Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. Car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Super. Et pourquoi Josué finit comme ça, revenant à Moïse ? Parce qu'il n'est toujours pas arrivé, le Messie. D'accord ? Josué ouvre à nouveau la porte pour dire « Nous l'attendons. » Nous l'attendons. Et tant qu'il ne sera pas venu, nous n'y arriverons pas. Pour servir Dieu et lui rester fidèles, nous avons besoin du don de la foi qui nous rend aptes à le servir et à demeurer fidèles. Josué, dans sa conclusion, ouvre grand la porte sur celui qui va rendre le peuple de Dieu capable de servir Dieu. Josué, comme Moïse, laisse place à quelqu'un de plus grand que lui. Il laisse place à Jésus, qui par son sacrifice et le don du Saint-Esprit offre la foi qui permet d'être agréable à Dieu et de le servir. Amen. En conclusion, je dirais trois choses rapidement. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Il règne sur la terre et il a autorité sur sa création. Il accomplit ce qu'il promet. C'est ça la conclusion du livre de Josué. Dieu accomplit ce qu'il promet, même s'il l'a promis des centaines d'années avant. Il donne la victoire. Il partage les terres, il juge le péché et le pécheur. C'est lui qui règne, c'est lui le roi. Deuxième chose, Dieu est aux côtés de son peuple. On n'a pas un Dieu qui reste là-haut assis et qui nous dit « débrouillez-vous ». Non, Dieu vient au milieu de son peuple et il se bat avec nous et pour nous. D'accord ? La conclusion des batailles, c'est que sans Dieu, ce n'était pas possible. D'accord ? Même Dieu l'avait promis, mais Dieu est aussi intervenu dans chacune des batailles pour permettre la victoire et la réussite. Et enfin, réussir sa vie. J'ai mis où construire l'Église, c'est vivre en observant et en mettant en pratique la parole de Dieu par le moyen d'une foi fidèle. Réussir sa vie, c'est vivre en observant et en mettant en pratique la parole de Dieu par le moyen d'une foi fidèle. Amen.